Donc, bienvenue à cette nouvelle édition du Double Dribble Podcast. Mon nom est Benjamin, je suis avec mon collaborateur
Samuel.
Alors, voici pour cette nouvelle édition de notre podcast. On va couvrir, dans le fond, la loterie qui est le tirage au sort pour déterminer l'ordre de la draft qui va avoir lieu le 20 juin 2019. Donc, savoir qui va avoir droit au premier choix convoité. Donc, la loterie a lieu le mardi 14 mai, dans les environs de 8h30, je pense que c'est sur les ondes d'ESPN. Donc, on va couvrir environ là, pas mal tout ce qui est probabilité des choix. On va regarder aussi c'est quoi les différences versus l'année passée. Il y a eu quelques modifications quand même assez importantes vis-à-vis l'ordre et le pourcentage des balles de ping-pong. Pour l'ordre de la draft, donc la probabilité. Puis aussi, on va faire un petit survol là, de quel choix, quel joueur fitterait le plus dans quelle équipe. Si t'es l'équipe qui sélectionne en premier, vers qui tu te penches, c'est quoi tes besoins. Aussi, t'sais, on sait qu'il y a les agents libres qui s'en viennent le 1er juillet. Donc, t'sais, c'est laquelle la pièce que tu veux rajouter à ton effectif en prévision de cette free agency là. Donc on peut commencer rapidement. Les grosses modifications là, je te dirais de cette année, c'est le pourcentage des voix attribuées. Dans le fond, c'est un système à peu près, c'est quoi, c'est 1000 boules de ping-pong. Donc si mettons moi j'ai 25% de chance d'avoir le premier choix. Donc, j'aurais 250 boules de ping-pong sur 1000. Ce qui est vraiment différent de l'année passée, c'est pour... l'écart est moins élevé entre le premier et le dernier parce qu'il y a une... comment on pourrait dire ça? Il y avait un fléau dans la NBA qui était que si tu sais que tu vas pas faire les séries éliminatoires, ben, tu veux finir le plus bas du classement possible.
Ouais, dans le fond, ce qu'on appelait le tanking, là, qui est un peu qui te garantit d'avoir le premier choix. L'année passée et toutes les années d'avant, le premier choix avait 25% de chance d'avoir le premier choix. Après ça, le deuxième et le troisième avaient 19,9% et le troisième 15,6%. Cette année, les trois pires équipes qui sont finies 28, 29, 30 ont le même nombre de pourcentage d'avoir le premier choix, malgré que les Knicks ont fini avec la pire bilan. Ils ont autant de chances que les Cavaliers et les Suns, avec 14% pour les trois équipes, d'avoir le premier choix. Par la suite, on a les Bulls de Chicago en quatrième qui descendent à 12,5%. Donc, à ce moment-là, on a vraiment moins grande différence entre les quatre premières équipes pour la sélection du premier choix. Ce qui est bien important de savoir, c'est que quand les quatre équipes, les quatre premiers choix vont être annoncés, les quatre équipes qui vont choisir 1 à 4 sont annoncées, le reste des équipes vont garder la position dans laquelle ils sont en ce moment. Donc, par exemple, on va donner un exemple. Les quatre premières équipes qui ont le plus d'odds, c'est les Knicks, les Cavaliers, les Suns et les Bulls. Si ce sont ces quatre équipes-là qui respectent, mais dans un ordre différent, peu importe, après ça, ça va être automatiquement Atlanta qui va être cinquième, Washington va être sixième, les Pelicans vont être septième, ensuite on va avoir Memphis, Dallas, Minnesota, les Lakers de Los Angeles, Charlotte, Miami et les Kings de Sacramento. Et par la suite, ben, ça va être selon les équipes en série et le classement que ça va être désigné. Mais vraiment, là, après les quatre premiers choix, on peut plus. Le dixième peut pas switcher à septième. C'est un peu différent là, de les autres loteries, des autres sports. Donc c'est ça. Là, vraiment un plus équilibré les quatre premiers choix. Comme par exemple les Knicks, eux, même s'ils ont le même nombre de choix, le même nombre de pourcentage que Cleveland et Phoenix d'avoir le premier choix, ils ne peuvent pas être plus bas que cinquième. Donc il y a quand même
une certaine justice respectée, là, tu sais. Exact. On a souvent reproché aux équipes comme ça, là, comme qui finissent en bas de classement, de ne pas vraiment se forcer pour gagner des matchs en prévision d'avoir le plus de chances possibles d'obtenir ce premier choix de draft-là. Mais quand même, s'il y a des équipes qui sont carrément pas capables de gagner, mais tu sais, c'est comme ça serait plate que, mettons, une équipe comme les Knicks, les Cavaliers puis les Suns, t'sais, se ramassent avec le pick 15, 14 puis 13. C'est quand même des équipes qui sont dans le besoin. Ils ont besoin d'avoir un aide certain. T'sais, c'est pas des équipes, des fois, avec un marché très invitant. Donc, il y a une certaine justice qui est respectée. Si jamais le hasard n'est pas en ta faveur, ben au moins tu te retrouves avec un pick qui est quand même assez décent. C'est peut-être pas une superstar instantanée, du moins pour la prévision de la draft. Par contre, il peut y avoir quelques surprises ici et là. Mais vraiment, la grosse différence là, entre, mettons, la draft de 2018 et la draft de 2019, c'est le pourcentage que la première équipe, ben en fait la dernière équipe, celle qui a fini dernier dans le classement général, au lieu de 25%, tu te retrouves avec seulement 14% de chance d'avoir le premier choix. Donc ça rend ça d'autant plus intéressant, d'autant plus excitant aussi, là, que ça soit un peu plus égal. T'sais, comme Samuel l'a dit, le 25%, 19, 15, puis après ça on tombe à 11,9%. Là, c'est 14, 14, 14, puis après ça, 12,5 et 10,5. Puis après ça, les équipes en bas de ça, les pourcentages sont quand même plus bas, mais ils ont quand même des chances intéressantes là, pour essayer d'obtenir le premier choix. Donc là, on donne l'exemple. L'année passée, c'était les Suns qui avaient eu le premier choix, ben, dis-moi, le plus de boules. Certaines logiques avaient été respectées. Donc, les Suns avaient eu le premier choix. Ils avaient sélectionné l'année passée DeAndre Ayton. Puis, on avait eu quand même des surprises, là. Les Kings avaient réussi à se faufiler deuxième dans la draft. Après ça avait été les Hawks. La déception de l'année passée, c'était vraiment les Grizzlies qui avaient glissé, si je me souviens bien, quatrième ou cinquième. Je pense que c'était quatrième. Ah non, c'est cinquième. C'est cinquième qui avait terminé. Donc là, ça va être quand même intéressant là, de voir. Ça va être quoi les upsets? C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être déçus de ça, mais ça rend ça quand même un peu plus fair pour la loterie et éventuellement pour la draft. Donc, un petit survol du classement, on l'a fait. On a mentionné les équipes là, avec les plus grands pourcentages qui vont pouvoir drafter en premier, ou du moins ceux qui vont avoir le plus de chance. Il y a des petits mock drafts quand même qui ont déjà été faits. Mettons que si jamais toute la logique avait été respectée d'un bout à l'autre, qui aurait fini où? Quelque chose qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'il y a des picks protégés. Donc, je donne comme exemple les Kings de Sacramento. Si par chance réussissent à ce que leur boule sorte en premier pour le premier choix, ben, ils ne pourraient pas garder le premier choix. Il faudrait qu'ils le donnent à Philly. Et je crois que s'ils finissent 2, 3, 4 ou 5e, là, dans ce cas-ci, il faut qu'ils donnent leur pick à Boston. Donc, tu sais, il y a des petits trucs comme ça. C'est l'année dernière, les Kings ont eu cette chance-là en retour, là. Ils avaient monté de 7e jusqu'à 2e pour le choix. Mais on va y aller vraiment juste avec si jamais tout est respecté, qui tu draftes, c'est quoi tes besoins. Fait que je vais te laisser commencer. Mettons là, que c'est les Knicks de New York qui obtiennent le premier choix au repêchage. Avec qui tu y vas?
Bon, alors, bon, les Knicks ont besoin d'à peu près un peu de tout. On n'a pas vraiment de joueurs excellents à toutes les positions. Le premier choix, pas mal unanime, là, à moins d'une grande surprise, va être Zion Williamson de Duke. Si les Knicks choisissent premier, c'est assurément le joueur qu'ils vont sélectionner. Zion, qui est un ailier fort, qui 6 pieds 6, 270 livres, c'est un phénomène de la nature, athlétique, bon avec le ballon. C'est vraiment, ça va être un joueur extraordinaire, un joueur que les Knicks vont avoir vraiment besoin, qui qui va pouvoir relancer la franchise avec ce joueur-là. Oui, c'est ça. C'est un joueur qui va changer complètement une équipe, dans l'équipe qui va se retrouver. Aucune hésitation vraiment, je pense, pour le premier choix. Là. Même si, par exemple, c'est les Suns ou c'est les Cavs qui ont le premier choix, moi, je pense que ça va être Zion qui va être sélectionné. Même si, par exemple, Phoenix, on aurait besoin... Oui, Zion serait un bon choix. C'est sûr qu'ils ont peut-être besoin d'un meneur de jeu pour alimenter l'offensive pour avec Booker et Ayton. Mais pour Phoenix, Zion, ce serait vraiment un excellent joueur aussi. Par la suite, on pourrait juste aller signer un point guard dans l'été pour vraiment là, compléter la formation. On aurait des solides joueurs aux positions clés. On aurait juste besoin d'un joueur, comme on dit là, dans le point guard, qui va vraiment structurer l'offensive, qui va orchestrer l'attaque, qui va mettre en valeur les talents de Booker, de Ayton et de Zion. Pour ce qui est des Cavaliers, les Cavaliers sont un peu comme les Knicks. Ils ont plus de besoins que, par exemple, les Suns. Mais les Cavaliers, à part peut-être à la position de point guard, qu'ils ont Colin Sexton, qui va être un bon jeune joueur. Zion, ce serait le choix à prendre... sans hésiter.
Je pense que pour toutes les équipes, là, je pense que Zion, c'est vraiment, comme tu as dit, un phénomène de la nature. Ça fait longtemps qu'on attend un joueur de cette trempe-là. Tu sais, c'est un prospect là, vraiment tant demandé comme ça. Là, je pense le dernier là, à qui on peut penser là, dans les capacités physiques ou le hype, un joueur qui lui ressemble quand même pas mal, ce serait LeBron James qui avait été un peu le... C'est le choix sans équivoque. Je pense que toutes les équipes, s'ils réussissent à avoir le premier choix, vont aller vers Zion. C'est un gars qui fait parler. Athlétiquement, c'est complètement fou. Il est bon de loin. Il est bon dans la pénétration. C'est vraiment un joueur complet. C'est vraiment un prodige du basket. D'après moi, je pense que si tout le monde, peu importe des équipes, réussissent à avoir le premier choix, je pense que tout le monde va se jeter sur Zion. Puis pour faire venir d'autres joueurs aussi, là, je pense que ça peut être un excellent atout. Si, mettons, t'es une ville comme Phoenix, oui, t'as beaucoup de talent, t'sais, avec du Booker, avec du Hayton, mais Phoenix, c'est pas nécessairement un marché basket. Fait que, t'sais, le fait peut-être d'avoir un joueur comme Zion qui rentre dans cet effectif-là, pardon, pour l'été, il y a beaucoup de joueurs qui vont vouloir jouer aux côtés de Zion. Donc là, tu peux amener, comme tu as dit, là, un point guard d'expérience. Là, tu peux vraiment comme construire autour de Zion et Booker, aussi avec du Ayton. Mais oui, je pense que pour tout le monde, Zion semble le choix logique. Tu sais, là, on a parlé de New York, Cleveland puis Phoenix. Là, comme on avait discuté avant d'enregistrer, pour Chicago, par exemple, tu sais, c'est peut-être un autre débat.
C'est probablement la franchise qui a le moins besoin de Zion, en parenthèse. Parce que à Chicago, on a Lauri Markkanen en 4, et qui est quand même un excellent jeune joueur. Là, que ça serait un peu dommage d'avoir un Zion qui arrive, on a un Markkanen qui est là, il va falloir trouver qui va avoir plus de temps de jeu. En plus, en position pivot, on a
Wendell Carter
qui est un bon jeune joueur aussi. Donc vraiment, Chicago...
Premier choix de l'année passée.
Ouais, exact. Chicago, c'est probablement l'endroit où Zion serait le moins bon fit, comme on dit. Ça serait peut-être plus position 1, 2, 3 que Chicago aimerait repêcher. Donc Zion, à Chicago, ça serait peut-être le moins bon fit. C'est sûr qu'ils ont moins de chances d'avoir le premier choix, là, sont en tant que quatrième pour les odds. Par la suite, on a...
Mais si tu regardes, juste finir sur Chicago, si tu draftes en premier, est-ce que tu prends Zion et tu écoutes les offres que les autres directeurs généraux te donnent? Mettons, si justement New York a sélectionné au deuxième tour... Puis qu'eux autres, tu sais, on sait ce qui s'est passé dans le dossier New York cette saison-là. Ont liquidé tous leurs joueurs. on s'est libéré de notre futur joueur de franchise là, en Porzingis. Tu sais, là, il y a DeAndre Jordan qui est à la fin de son contrat. Oui, on a du Dennis Smith Jr., on a Mitchell Robinson. Mais tu sais, c'est des gars de première, deuxième année, troisième année, puis il n'y a pas vraiment d'impact sur cette franchise-là. Donc, si tu es Chicago, puis New York draft après toi, est-ce que tu prends Zion? Tu fais un deal avec New York? Est-ce que New York a, mettons, à sélectionner un Ja Morant ou un RJ Barrett? Faire un échange. Donc, Barrett ou Morant vient avec les Bulls. Donc, une position qu'ils sont peut-être plus en demande. Ben en fait, qui ont plus de besoins. Là, un Chris Dunn, c'est peut-être le maillon faible en ce moment de cette équipe-là. Mais tu sais, c'est une équipe qui a énormément de potentiel. Mais c'est peut-être la position là, qui est la plus criante pour eux. Puis après ça, pour la draft, mettons, de l'année prochaine, tu demandes un pick dans le top 10, dépendamment du classement des Knicks. Je pense que vraiment, les Knicks, pour eux, ils vont vouloir tout offrir. Si jamais ils n'ont pas le premier choix, ils vont vouloir tout donner, tout offrir pour avoir Zion. Donc voilà pour Chicago. Puis après ça, là, on se met sur du Atlanta.
Ouais, Atlanta qui a quand même une bonne situation avec le cinquième choix plausible. Atlanta, on a quand même des bons jeunes joueurs assez dominants. Trae Young qui mène la charge, vraiment, là, qui va être dans la conversation très sérieuse avec Luka Doncic pour la recrue de l'année. Il y a beaucoup de gens qui vont lui donner des votes parce qu'il a connu vraiment une très grosse fin de saison. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un mauvais choix d'Atlanta de prendre Trae Young à la place de Luka Doncic. Mais Trae Young s'est vraiment imposé en deuxième moitié de saison. Et a vraiment bien mené les Hawks, là, des bonnes performances. C'est sûr que les Hawks ne gagnaient pas relativement souvent. Mais Trae Young est vraiment un bon joueur pour l'avenir d'Atlanta. On a aussi là, Atlanta quand même des belles ressources avec John Collins en poste de pivot, qui est un très bon jeune joueur aussi. Donc, tu sais, le duo Young-Collins, là, je pense que ça va être un one-two punch assez solide pour les Hawks dans les prochaines années. Si on ajoute un Zion en 4, on va vraiment avoir une
Tu
belle.
deviens extrêmement, extrêmement terrifiant, extrêmement mobile. Tu sautes tôt, t'as peur, t'as vraiment t'as ton poste 4 et 5 qui va sauter sur tout, bloquer en attaque, c'est talentueux. Fait quoi, pour les Hawks, on leur souhaite, ça pourrait redonner vie à Atlanta. C'est peut-être, mettons, l'équipe qui. Avec les Knicks, je pense qu'ils ont le moins de talent comme diversifié, là. T'sais, on a des bons joueurs, mais il n'y a pas énormément de talent sur les autres joueurs. Donc ouais, pour les Hawks, avoir Zion, c'est sûr, ça serait extrêmement bien. Là, après ça, dans l'ordre, on a les Wizards de Washington. Là, ça va être intéressant pour Washington de voir qu'est-ce que tu veux faire parce que là, le dossier de John Wall, ça n'a pas l'air réglé. Est-ce que tu l'échanges? Est-ce que t'sais, le Bradley Beal a fini la saison en force? À essayer de mener Washington vers le haut, mais sans succès. Encore une fois, je pense que un Zion, c'est ce qui va être le plus bénéfique, là. Tu veux pas avoir, t'sais, un Morant puis Barrett, c'est vraiment comme position 1 et 2. Là, à ce poste-là, t'as John Wall et t'as Bradley Beal. Donc, t'as pas vraiment besoin de ces positions-là. Là, c'est sûr que tu peux descendre un peu plus bas. Dans la draft, tu peux aller chercher, mettons, un DeAndre Hunter, un Jared Culver, un Cameron Reddish qui vont être disponibles plus bas. Mais tu sais, si t'es les Wizards, puis t'es pas pour avoir Zion, je pense que t'as mieux finir comme quatrième, cinquième, puis avoir après ça du choix là, pour sélectionner plus bas. Après ça, tu as les Pelicans avec le dossier Anthony Davis. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il va être échangé? Là, on a changé on a changé un peu la direction. On a changé le c'est le manager qu'on a changé là. Donc, est-ce qu'il va y avoir des conversations différentes avec Anthony Davis. Est-ce qu'il va réussir à le faire rester? Mais là, encore une fois, Anthony Davis, c'est comme un 4, un 5. Zion, c'est la même position. Est-ce que tu échanges Anthony Davis? Donc, tu te débarrasses de ce problème-là. Tu vas chercher des bons jeunes joueurs de d'autres équipes, mettons comme les Celtics. Si tu réussis à aller chercher du Jaylen Brown, du Jason Tatum,
Terry Rozier.
du Terry Rozier, puis tu réussis à avoir le premier choix, donc tu vas chercher Zion. Là, tu commences vraiment une nouvelle année avec une nouvelle équipe, puis un nouveau buzz autour d'eux. Donc, non, ça peut être vraiment, vraiment intéressant pour les Pelicans.
C'est surtout que aussi les Pelicans ont encore Holiday en meneur de jeu là, qui est quand même un très bon star dans la ligue. Lui aussi là, peut-être que va rester, restera-t-il pas? Il est encore sous contrat, mais c'est dépendamment de ce qui va arriver avec le dossier Anthony Davis. C'est pas trop ce qui va se passer de son côté. Il a plus de chances de rester lui, vu que c'est pas un joueur à problème, c'est vraiment un bon vétéran. Puis à ce moment-là, c'est comme tu dis, si Anthony Davis s'en va, puis on réussit à avoir Zion miraculeusement, puis on a des bons joueurs pour l'échange d'Anthony Davis, ben on va avoir une belle base solide avec les Pélicans pour recommencer l'année prochaine. Parce que à part ça, par exemple, si les Pélicans n'ont pas Zion, ce qui va, il y a beaucoup de chances qu'ils n'arrivent pas, eux qui choisissent en septième vont avoir quand même des joueurs intéressants là, à cette position-là. Donc, exemple, ils échangent Anthony Davis et ils ont leur choix numéro 7. Mais en numéro 7, on a quand même des bons joueurs là. On peut y aller pour un Jackson Hayes en pivot. Il y a Sekou Doumbouya, si je le prononce bien, qui est aussi là dans à peu près les mêmes eaux, qui est un 4. T'sais, on a aussi du Brandon Clark qui est 12e dans la liste. On a Bol Bol qui est un géant en 5. Fait qu'on a quand même des joueurs qui pourraient s'ajouter à l'équipe, même si on échange Anthony Davis et on ne reçoit pas le premier choix, par exemple.
Ouais, tu peux être complémentaire mettons, à cet échange-là. Est-ce que justement la direction des Pélicans vont être intéressés peut-être d'échanger Anthony Davis contre peut-être un choix plus haut? Si mettons. Là, c'est sûr que c'est bien compliqué avec Anthony Davis parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut faire. Anthony Davis qui avait mentionné qu'il va être dans un marché pour lui donner une chance de gagner. Est-ce qu'une équipe comme les Knicks, les Cavs, Phoenix, est-ce que c'est vraiment des clubs ou des chances vraiment pour lui de gagner? Je dirais que non. Par contre, les Knicks peuvent être intéressants. Comme on sait, New York, c'est un énorme marché basket. Donc, si tu es les Pelicans, est-ce que tu cognes à la porte des Knicks, tu leur dis, OK, mais regarde, je te donne Anthony Davis, tu me donnes ton premier choix. Pour cet été, tu vas être extrêmement attrayant pour attirer d'autres agents libres. On le sait, il y a du Kevin Durant, il y a du Kyrie Irving, il y a du Kawhi Leonard, il y a
Jimmy
du Jimmy
Butler.
Butler. Il y a énormément de gros noms. C'est sûr que si tu rajoutes la phrase jouer avec Anthony Davis, ça peut être extrêmement intéressant pour ces joueurs-là. T'sais, des joueurs qui aiment ça être, mettons, d'excellents deuxièmes ou t'sais, un joueur vraiment d'élite, mais comme pas assez pour l'idée d'une franchise, avoir un joueur comme Anthony Davis, ça peut être extrêmement payant en bout de ligne. Jouer dans l'Est aussi, comme on sait, c'est un petit peu plus facile. Donc, tu sais, il pourrait être le nouveau roi de l'Est, là, si on veut, là, même s'il y a de très bons joueurs, là, mettons entre autres chez les Bucks, Raptors et 76ers. Mais ouais, ça va être intéressant. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que les moves des Pelicans. C'est pas à la draft, c'est pas à la loterie, à la draft ou le premier, voir là qu'est-ce qui va se passer là, à ce sujet-là.
Ouais, c'est un peu touché, surtout qu'il n'est pas agent libre. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est agent libre, mais il est encore sous contrat.
C'est encore sous contrat une année.
Il reste une année. Donc, c'est l'équipe qui va aller le chercher va peut-être l'acquérir, va l'avoir une année, puis il va partir après. Donc, ça m'étonnerait.
Il y a des équipes quand même qui veulent brasser les cartes, comme les Raptors. L'année dernière, on s'est débarrassé du meilleur joueur de la franchise pour faire une espèce d'opération séduction sur Kawhi Leonard. Pour l'instant, à l'heure où on parle, on s'en va en troisième ronde pour les séries. mais on n'a aucune idée des intentions du joueur. Est-ce que l'opération séduction va être réussie? T'sais, si Kawhi venait à partir, on s'est quand même débarrassé d'un joueur, du meilleur joueur de notre franchise pour un gars qui est resté un an. Donc, dans ce cas-là, on est perdant. Mais si on regarde, mettons, l'autre côté de la médaille, un cas comme Paul George avec le Thunder, on a tenté cette opération séduction-là, puis on a réussi à le signer finalement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être intéressés peut-être à prendre ce défi-là là, de séduire Anthony Davis.
Oui, exactement. Ouais, ben, juste pour poursuivre dans le fond de l'ordre, là, on a parlé de Washington et de la Nouvelle-Orléans, pardon. Ça, c'est les premières équipes qui ont du 6% là, après Washington. Nouvelle-Orléans, 6%. Après ça, on a Memphis, qui seraient les prochains à choisir, qui ont 6% aussi de chance. Memphis, eux, si ils passent dans le top 5, c'est un choix que Boston pourrait aller chercher. Donc, c'est une des premières équipes qui ont comme une petite, je dirais, épée de Damoclès en haut de leur tête. Qui, oui, si tu as un premier choix, c'est vraiment cool, mais tu peux quand même le perdre. Fait que Memphis, une situation quand même pas idéale, mais c'est pas la plus catastrophique. Eux qui ont perdu Marc Gasol, mais qui ont quand même acquéri des très bons joueurs dans l'échange, à date limite. On parle de Jonas Valanciunas, Dylan Wright, CJ Miles, puis il y avait un choix de deuxième ronde, je crois.
Quelque chose genre.
Ouais. Donc, Valanciunas, qui est qui est quand même dans son prime, mais quand même un joueur qui est encore assez jeune. Bon joueur offensif, très bon pivot offensif. Dylan Wright, qui a vraiment été très surprenant à son arrivée avec les Grizzlies.
Ouais, Dylan Wright, tu sais, qui est un troisième meneur de jeu qui se retrouve là en meilleure position là, derrière du Mike Conley. Donc avec les Raptors, il était derrière du Lowry et Fred Van Vliet. Là, se retrouve, mettons, deuxième derrière Mike Conley. Je pense que c'est dans ces deux derniers matchs, il a fait deux triple-doubles de suite.
Ouais.
Tu sais, des performances à comme 25 points. Donc, ouais, c'est un joueur qui est en pleine éclosion. Mais je me demande, tu sais, chez Memphis, c'est quoi tes besoins? Parce que là, on parle d'échanger Mike, tu sais, l'espèce d'air Mike Conley,
Va peut-être se terminer, ouais.
Mark Gasol. Est-ce qu'on va tenter d'échanger ces joueurs-là, reconstruire? Est-ce que Mike Conley peut être une monnaie d'échange pour la draft, justement? Tu sais, comme une équipe comme les Suns.
Ouais, on en a parlé, ouais, exact.
Suns qui se recherche un meneur de jeu d'expérience. Tu sais, un Mike Conley qui fit très, très, très bien avec cette équipe-là. Est-ce que les Grizzlies vont tenter d'échanger Mike Conley pour un choix? Pour un choix plus haut, t'sais, reconstruire vraiment l'équipe de A à Z, ou du moins là, vraiment d'échanger les grosses pièces. Non, j'ai bien hâte de voir ce que Memphis va essayer de concocter cet été. T'sais, on a leur premier choix de l'année dernière qui s'est blessé, mais qui avait bien commencé l'année. Fait que là aussi, on n'a pas encore vu son éclosion, là, qu'est-ce qui se passe avec ce joueur-là. Fait que t'sais, pour Memphis. Ça va être super intéressant vraiment de voir c'est quoi qui ont ambition pour
Pas
l'année
le plan.
dernière. Je pense pas que c'est une équipe qui s'attend nécessairement à faire les playoffs peut-être pour l'année dernière pour l'année prochaine pardon. Mais ouais, je pense que ça va prendre je pense une équipe qui vise mettons du 3 à 5 ans de redevenir compétitif là, si on veut échanger ce joueur-là en Mike Conley, c'est Jaren Jackson, je l'avais pas nommé, là, Jaren Jackson qui avait bien commencé la saison, a souffert de blessures. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir ce que Memphis va pouvoir nous contacter. Là.
Ouais, donc on parlait de Memphis. Par la suite, on a Dallas, qui a aussi un 6% de chance d'avoir le premier choix. Dallas, qui sont allés chercher à la date limite, un peu avant la date limite, si je ne me trompe pas. Porzingis qui est arrivé dans un blockbuster trade. Donc Dallas ont une bonne situation eux aussi. On a quand même un choix bien placé. On a Luka Doncic qui va être la recrue de l'année, qui va être une star dans la ligue. On a Porzingis, s'il est en santé au début de l'année, on va avoir tout un duo avec Doncic. On a d'autres jeunes joueurs à Dallas. On va avoir un peu là une espèce de poste Dirk Nowitzki à Dallas. Il va falloir un peu recréer une identité. Pardon. Avec la draft, on peut aller chercher un bon joueur là, qui va aller un peu dans le milieu de ces deux joueurs-là, pour un joueur de position pour les aider. Dallas, par contre, ils ont beaucoup de... Il y a, avec l'échange de l'année passée de Doncic et de Trae Young, là, si Dallas monte plus haut, l'Atlanta, on a encore un espèce de si tu montes haut, tu perds ton choix du côté de Dallas. Donc, Dallas, s'ils obtiennent leur choix, là, qui serait le 10e, si je compte bien, le 9e, pardon. On a quand même une bonne position pour Dallas. On a des bases solides, des bons jeunes joueurs. Moi, je pense que prendre en position 3 là, en ailier, là, on aurait besoin d'un bon joueur.
Ouais, c'est ce que je pense aussi, parce que là, tu sais, on avait un Dennis Smith Jr., puis on a vu durant la saison que Dennis Smith Jr. puis Luka Doncic, ces deux garçons qui ont besoin d'avoir le ballon dans les mains. C'est pas un qui crée puis un qui après ça qui va driver nécessairement. Tu avais deux bons joueurs de talent, mais on a vu que Luka était capable de monter le ballon, de générer l'attaque par lui-même. Donc est-ce que tu vas chercher vraiment une star en tant que meneur de jeu? Ou mettons comme Samuel a mentionné, est-ce que tu vas pas peut-être plus pour un 3, un 4, si tu mets Porzingis en 5? Dans la NBA moderne, là, ça se peut très bien. Donc, un 3, un 4 pour les Mavericks, je pense que ça serait les plus bénéfiques pour eux.
Oui, vraiment, là, si les Mavs sont chanceux et que les dieux du basket sont avec eux, un Cam Reddish, s'il est encore disponible à leur position, je pense qu'ils vont sauter dessus. Un des trois joueurs de Duke là, qui va être sélectionné dans le top 10. Sinon, là, il y a du Cam. Ouais, on parle de Cam Reddish, il faut vraiment être chanceux vu qu'il est classé 7e. Peut descendre un peu, mais il peut aussi monter plus haut. Par la suite, moi je pense que peut-être un Romeo Langford d'Indiana ou Brandon Clark de Gonzaga qui pourraient être des bons joueurs, des bons choix pour la franchise de Dallas. Parce que sinon, on a quand même du shooting guard. On a un petit peu de. On a un pivot dans ces eaux-là. C'est pas nécessairement ce qu'on a. Un shooting guard là, en Kobe White de North Carolina, ça serait quand même un bon joueur aussi. Mais moi je pense vraiment là, comme on disait là, avec Benjamin, là, un 3 ou un 4, là, c'est plus les.
Si un Jared Culver est disponible aussi avec eux, là, je pense que ça pourrait être une belle addition au duo européen là, en Doncic et Porzingis. Mais eux autres, ça va être intéressant de voir. Là, on parle tout en spéculation. Là, on va faire une autre édition maintenant, une fois qu'on va avoir justement toute cette information-là. Donc, on le rappelle, là, le mardi, c'est la loterie. On va savoir après ça, c'est quoi l'ordre. Là, il va y avoir bien de la spéculation. Qui va drafter qui propose quoi pour se rapprocher le plus possible du premier choix. Mais oui, fait que donc pour Dallas, c'est pas mal ça. Minnesota, moi, on dirait Minnesota, je sais pas c'est quoi leurs besoins. Tu sais, au poste de point guard, c'est relativement correct. Il y a Wiggins qui a fait une saison dégueulasse cette année. Est-ce que tu échanges Wiggins? Est-ce que Wiggins peut être une monnaie d'échange pour un... Parce que là, on s'entend, là, avant, on attribuait quasiment l'équipe des Wolves à Andrew Wiggins. Mais là, maintenant, avec les performances soutenues de Karl-Anthony Towns, c'est rendu son équipe à lui. Et Wiggins agit comme second. Puis même comme second, on dirait qu'il n'est pas capable de livrer la marchandise. Pourcentage au tir vraiment atroce. On dirait que ça y tente pas. Donc, est-ce que tu échanges Wiggins? T'essaies d'avoir un choix, te rapprocher, aller chercher un gros joueur, essayer de retravailler ça parce que là, c'est extrêmement décevant pour les Wolves cette année. Je pense qu'on les voyait je pense que bien pour plusieurs, on les voyait peut-être en playoff. Là, comme on va parler des Lakers aussi, eux autres aussi, on les voyait en playoff. Mais ça va être quoi là? Est-ce qu'on continue dans la même direction? Parce que si on joue toujours avec ces mêmes joueurs-là, Puis si on gagne pas, à un moment donné, va falloir qu'on pointe quelqu'un du doigt. Est-ce que c'est des joueurs? Est-ce que c'est l'entraîneur-chef? Est-ce que c'est le directeur général? Donc, pour Minnesota, honnêtement, je pense que tu draftes le meilleur joueur disponible. Mettons, mis à part la position de Karl-Anthony Towns, tu y vas pour le meilleur joueur. Donc, voilà pour les Wolves. Les Lakers, maintenant.
Oui.
On peut faire une émission complète
Ouais, on pourra en parler au
sur
complet.
les Lakers. Les Lakers ont signé beaucoup de contrats de 1 an avec l'arrivée de LeBron James. Comme on le sait, c'est cet été, là, à partir du 1er juillet. Ça va être une année à gros contrats. Un été à gros contrats. Le cap monte. Donc, il y a plus d'espace disponible. Les directeurs généraux peuvent donner plus d'argent. Il y a beaucoup de gros noms sur le marché. Le projet Magic Johnson a pas fonctionné. La communication dans l'espèce d'échange pour parler avec Anthony Davis, là, toute cette espèce de ah, je sais pas, comme cette espèce de mauvaise communication là, ça a juste déteint l'image des Lakers. Est-ce que c'est un joueur autonome? Est-ce que tu as envie de signer là? Est-ce que tu as envie de faire partie d'espèce de carrousel médiatique là, qui revient tout le temps? C'est toujours des mauvaises nouvelles. Tu sais, LeBron James, qu'on l'attendait comme un meilleur leader, oui, il y a eu des blessures. Mais tu sais, les jeunes, il y a eu des blessures de jeunes aussi. Après ça, on voit LeBron qui est assis au bout du banc, pas avec ses coéquipiers. On dirait qu'il n'y a aucune ambiance. Donc, qu'est-ce que tu fais si t'es les Lakers? Là, tu n'as plus vraiment de rapport de supériorité avec les Celtics, là, avec l'histoire Anthony Davis. Parce que Anthony Davis et Kyrie Irving ne pouvaient pas être tous deux performés chez les Celtics. Parce qu'il y avait des contrats qui pouvaient pas être qui pouvaient pas être, être complémentaires. Donc là, par contre, cette année, si jamais Kyrie revient, Anthony Davis pourrait venir le rejoindre aux Celtics. Mais encore une fois, les Lakers, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, si je suis un agent libre, c'est pas la destination de Los Angeles que je sélectionnerais, là.
Ouais, c'est ça, l'espèce de mauvaise ambiance qui a régné là, après là, les pourparlers qui ont un peu backfire, comme on dit, là, sur les Lakers. LeBron, qui était, on dirait, seul de son camp, les coéquipiers qui ont pas vraiment apprécié le fait que LeBron disait qu'il voulait avoir Anthony Davis. Le fait aussi qu'on a appris une espèce de rumeur que les Lakers auraient proposé Anthony Davis pour quasiment le club au complet des
Ouais, c'est ça.
Lakers. Disons que les joueurs, après ça, avaient pas vraiment de motivation de jouer. Il y avait une mauvaise ambiance. LeBron s'est blessé. LeBron n'était pas aussi dominant que dans les années passées. Pour avoir regardé quelques matchs des Lakers, LeBron était un peu plus paresseux défensivement. Était moins appliqué dans cet aspect de son jeu qui est excellent dans...
Normalement, mais
Normalement, exactement. Offensivement, ratait des tirs qu'il ratait pas avant, était moins monstrueux que d'habitude. Au niveau de la chimie de groupe des joueurs, il y avait vraiment, ça clashait vraiment. On n'avait pas un esprit de corps. Là, il y a c'est ça, la saga de Magic Johnson qui est partie. On a congédié Luke Walton. Là, on parle que c'est Tyronn Lue qui reviendrait
non,
avec LeBron James.
là, ça a été confirmé que Tyronn Lue ne signe pas. En tout cas, les négociations avec Tyronn Lue sont terminées. Je crois que les Lakers lui offraient un contrat de 3 ans. Et lui cherchait peut-être plus pour un contrat de 5 ans ou 4 ans, donc de plus longue durée. Donc, après ça, ils ont laissé faire les négociations. C'est finalement Frank Vogel, si je prononce bien, là, qui est le nouveau coach des Lakers. Puis on a appris après ça que Jason Kidd va venir rejoindre son personnel d'entraîneur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Frank Vogel, qui est un bon coach, qui est respecté dans la NBA. Puis là, on parlait de Jason Kidd en tant qu'entraîneur-chef. Moi, je n'étais pas nécessairement
un fan
de cette décision-là. Par contre, Jason Kidd, avec son expérience en tant qu'entraîneur assistant, je pense que ça peut être bénéfique pour les Lakers. Donc là, niveau communication, qu'est-ce qui va se passer avec les Lakers cet été, ça va être intéressant parce que tous les faits et gestes et de LeBron et de l'organisation des Lakers sont scrutés à la lettre. Tout ce qu'ils vont faire, vous allez le voir partout. T'sais, s'il y a une mauvaise déclaration qui est faite d'un joueur, ça va être partout sur les réseaux sociaux. Mais ça va être intéressant là, parce que là, c'est un gros été. On parle peut-être de Klay Thompson, de Marcus Cousins. Est-ce que tu rajoutes du Jimmy Butler? T'sais, il y a beaucoup d'espace sur le cap salarial cet été pour les Lakers. Donc, après ça, à la draft, ça va être intéressant de voir après ça vers qui vont se tourner pour venir supporter LeBron et ses Lakers. Puis pas nuire aussi les jeunes talents qu'on est allé chercher chez les années passées. Tu sais, là, Lonzo Ball, je sais que pour certains, c'est peut-être une c'est pas nécessairement un projet réussite.
Une déception.
C'est un peu une déception. Ou tu sais, comme il y a eu certaines blessures. T'sais, est-ce que le projet Lonzo est terminé? Il y a Kyle Kuzma qui a vraiment pris, on dirait, les rênes de cette équipe-là pendant la blessure de LeBron James. Donc là, le joueur des Lakers qui a la plus grosse valeur, là, hormis LeBron James, c'est définitivement Kyle Kuzma. Donc là, si t'es les Lakers, j'ai l'impression qu'il faut que tu départisses de Kyle Kuzma si tu vas avoir quand même une pièce rajoutée à ton échiquier là, qui est vraiment intéressante.
Ouais, exactement. Puis au niveau des Lakers, on a des bons joueurs à toutes les positions un peu, mais on dirait que les joueurs sont pas aussi bons qu'ils devraient être ou la chimie opère pas. On a du Brandon Ingram qui est quand même un bon jeune aussi, mais qui n'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait. Puis c'est ça, là. Au niveau du draft, si les Lakers décident de pas faire rien du tout, ce qui pourrait arriver, ce qui serait surprenant, mais on sait jamais. Ils vont choisir dans le 11-12e, ils vont quand même avoir du joueur. Moi, je pense que les Lakers devraient repêcher un meneur de jeu ou un centre, un pivot. Je pense que c'est les deux positions qui pourraient être très, très avantageuses d'améliorer. Parce qu'au niveau point guard cette année, on n'avait pas tout le temps un joueur qui était dominant.
Manque de présence en santé là, chez les Lakers. Sauf que là, avec la saison décevante de Kyrie Irving, puis ces Celtics un peu moyens, là, est-ce que pour Kyrie, le chapitre Celtics est terminé? Est-ce qu'il va aller rejoindre son copain LeBron James aux Lakers? Là, on va parler des Hornets de Charlotte. Là. L'affaire Kemba Walker non plus, c'est pas quelque chose qui
est...
C'est pas réglé. Monsieur Kemba Walker est devenu le meilleur scoreur de la franchise cette année. Mais est-ce que lui, vraiment, il se sent attaché à cette franchise-là? Est-ce qu'il se voit vraiment gagner un championnat avec Charlotte? Ça dépend toujours de ce que les joueurs ont en tête. Est-ce que c'est des joueurs qui sont plus sur la loyauté, sur le ring chasing? Ça, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Kemba. Il n'y a pas vraiment eu de communication médiatique sur ça. Ou du moins, pas que j'ai vu passer. Là. Donc, est-ce qu'un gars comme Kemba ou comme Kyrie Irving peut les intéresser? Là, je sais que tu avais apporté du LeBron James aussi. Là. Pas LeBron James, excuse-moi. Du Derrick Rose avec les Lakers. Mais encore là, l'aspect santé avec Derrick Rose, c'est vraiment... c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Là. On ne sait jamais ce qui va se passer. On va finir sur ça, sur les Lakers. Là, je pense qu'on a pris quand même un peu plus de temps que demandé. Mais là, transition rapide sur les Hornets de Charlotte. Toi, je sais pas, c'est quoi ton take? On dirait que c'est décevant, mais pas trop décevant la saison des Hornets. Je pense que si on avait réussi à faire les playoffs, peut-être que ça aurait peut-être donné plus envie à Kemba de rester.
Ouais, parce que c'est ça, les Hornets qui ont quand même raté les séries de peu, là. Ils étaient dans la course jusqu'à la toute fin là, avec le Magic, avec les Pistons et le Heat de Miami. C'est un peu énigmatique pour moi là, à Charlotte. On a quand même Kemba qui est un meneur de jeu dominant. Par la suite, on a quand même des bons joueurs. On a des bons jeunes joueurs, mais on n'a pas vraiment une équipe qui peut. L'année prochaine, si on fait pas de changement. Puis on garde Kemba, je pense pas que c'est une équipe qui peut aspirer encore une fois à faire les séries automatiquement, ça va se battre. Pour moi, il faut ajouter du poste 4, du poste 5 pour être plus solide. Parce que en 5, on a quoi? On a Bismack Biyombo. On n'a pas un joueur dominant. Donc pour moi, si Charlotte réussit à garder Kemba, moi je pense que Kemba va rester avec Charlotte. Je pense que par contre, va demander à ce qu'on lui donne de l'aide. Donc,
Est-ce que tu vois Kemba signer à long terme tout de suite ou tu lui. Moi, je ferais comme. Ok, je signe sur 2 ans. Là, maintenant, c'est à votre tour de m'aider. Amenez-moi des joueurs. Si jamais dans 2 ans, vous m'avez pas aidé, ben regarde, moi, j'ai rempli ma part du contrat.
moi, je vois vraiment à Kemba peut-être faire ça. Dire, je vais rester un peu plus longtemps. Montrez-moi que vous voulez que je reste. Vous voulez que. Me donner de l'aide, me donner une équipe pour compétitionner pour un championnat. C'est ça, je pense que c'est pas la meilleure option pour Charlotte. Parce que, tu sais, on n'était pas tellement loin, mais si c'est de l'Est qui avait des équipes qui étaient décevantes, il y avait des équipes qui étaient meilleures que qui étaient supposées être, l'année prochaine, les équipes qui sont un derrière eux, qui ont fini derrière eux au classement, honnêtement, vont s'améliorer, vont être un adversaire. Plus compétitif avec eux pour faire les séries. Donc, honnêtement, pour Charlotte, on doit s'améliorer si on veut être encore une fois dans la course. Parce que, comme je le dis, si on s'améliore pas, moi je pense que Charlotte, là, du 9, 10, 11, là, ça va être encore ça, même à moins que ce soit vraiment catastrophique. Puis on perde Kemba, puis on n'est pas capable de le remplacer par un autre point guard ou pas capable de s'améliorer du tout. Donc, je pense que Charlotte, au repêchage, ce qu'on veut, on va choisir un bon joueur selon nos besoins. Puis à la free agency, on va aller chercher des joueurs. On va essayer d'aller chercher des joueurs en fait.
Complémentaire.
Exact. Pour aider Kemba. C'est sûr qu'on a quand même des joueurs qui sont disponibles dans des positions clés. Mais c'est sûr que Charlotte, c'est pas peut-être la ville NBA la plus sexy. C'est quand même un bon marché de basketball, par exemple. On a une bonne base de fans qui est content que le nom des Hornets soit revenu. On a quand même. T'sais, on a.
Une franchise qui appartient à Michael Jordan.
Exactement, on a quand même Michael Jordan qui est là. On a le match des étoiles qui vient d'arriver, qui vient de se passer cette année. On a quand même. C'est quand même une franchise solide. C'est juste qu'on doit vraiment aller chercher des joueurs pour aider Kemba pour être en lice pour un
Plus
championnat.
compétitif,
Ouais,
tout à
exactement.
fait.
Fait que c'est pas mal ça pour, je pense, les Hornets,
Ouais.
qui sont vraiment 1% d'avoir le premier choix. Donc, devraient avoir leur choix là, entre le 10 et le 40. Mais devraient avoir leur choix 12, là, à moins
Ouais,
de leur
exact.
environnement.
Fait que ça, comme tu as dit, Charlotte se retrouve avec seulement 1% de chance d'obtenir le premier choix. Les deux autres équipes qui ont aussi 1% de chance d'obtenir le choix, c'est le Heat de Miami et les Kings de Sacramento. Là, on parle vraiment là, d'hypothèse, si jamais ça réussit à obtenir le premier choix. Le Heat de Miami, qui vient de tourner une page un peu de son histoire avec la retraite de Dwayne Wade. Donc là, on a manqué les playoffs de peu. On va prendre au repêchage là, quand même assez tard. Je pense que rendu là, la même chose pour les Kings. Tu prends les meilleurs joueurs disponibles à une position peut-être un peu plus faible. Tu sais, tout le questionnement autour de Hassan Whiteside. Est-ce que c'est un joueur avec qui tu as envie de continuer? Dragic, est-ce que tu continues avec lui? Est-ce que tu essaies de bricoler un petit bundle pour proposer à une équipe comme mettons les Suns, donner des joueurs quand même imposants puis essayer d'avancer au repêchage, ou est-ce que on est vraiment comme en période de reconstruction pardon, post Dwayne Wade? Donc ça, honnêtement, ça, pour moi, ça va être... On sélectionne le meilleur joueur disponible pour le Heat de Miami. Pour les Kings de Sacramento, ça va être vraiment, d'après moi... Ben, en fait, la saison des Kings de Sacramento, je pense qu'il n'y a personne qui les attendait au rebord des playoffs. Moi, le premier. Saison extrêmement... c'est pour ceux qui ont eu la chance de voir les Kings jouer.
Wow.
Une vitesse de jeu. Juste vraiment une équipe spectaculaire. Menée là, de main de maître par
Yann
Monsieur
Fox.
De'Aaron Fox. Qui est seulement un joueur de deuxième année. Mais qui a fait tourner des têtes dans la NBA. On a été sélectionné après ça l'année passée à la draft, le Marvin Bagley, qui n'a pas commencé la saison peut-être comme on l'attendait. Il était souvent mis en titre de remplaçant. Mais très très bonne saison, qui met vraiment la table pour l'année prochaine. Même chose pour les. Les Kings, c'est vrai, sont allés chercher Harrison Barnes,
Ouais.
qui est un bel ajout à l'effectif.
Bonne profondeur.
Bonne profondeur. Donc là, après ça, dans les autres positions, ça va être intéressant de voir. On a Buddy Hield qui s'est bien. Qui est comme un peu une éclosion. Le poste numéro 5, c'est pas vraiment certain. Est-ce qu'on retourne vers du Willie Cauley-Stein? Est-ce qu'on essaie de drafter un poste 5 plus dominant avec qui est dans cette espèce de vent de fraîcheur, vent de jeunesse? Qui est les Kings de Sacramento. Donc ça va être intéressant. À même titre là, que le Heat, là, ça va être vraiment, on sélectionne le meilleur joueur disponible à la position qu'on a de besoin. Je pense pas que vraiment je pense pas que les Kings sont prêts à sacrifier soit Fox, soit Bagley,
Yield.
non, ni Hield pour aller chercher plus haut au repêchage. Je pense qu'on est content avec les pièces qu'on a. Donc ouais, ça va être intéressant de voir pour la suite. Mais comme on a dit tantôt, la loterie le mardi 14 mai, dans les alentours de 8h, 8h30, sur
ESPN.
les ondes d'ESPN. Donc, branchez-vous, regardez ça. N'oubliez pas, allez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez nous suivre au Double Dribble Podcast. Suivez-nous sur la page Instagram. Allez follow, ça peut nous donner un bon petit coup de main pour commencer. On va continuer à faire d'autres vidéos. Puis on va enchaîner sur un petit recap des demi-finales dans l'Est et dans l'Ouest.
À tantôt.
Tantôt.